En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, « Il n'était pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus.
On va prier ensemble. Bien, Père éternel, nous sommes assemblés ce matin pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Viens, Père, appliquer ce passage à nos vies, à nos cœurs. Je te prie, Père, de nous aider à saisir ce matin ton amour. L'amour d'un Père qui corrige et qui instruit. L'amour d'un Père qui reprend et qui redresse. L'amour du Créateur qui attire et appelle sans cesse ses créatures à lui. Seigneur, je te prie d'être avec ma bouche et avec nos cœurs ce matin. Viens nous apaiser. Viens disposer notre cœur à recevoir ta parole. Et que ton esprit, Seigneur, que ton esprit puisse venir appliquer toutes ces vérités dans nos cœurs ce matin. Amen. Jean-Baptiste le prophète. Un prophète, c'est extrêmement dérangeant. Le prophète est là pour déranger. C'est sa fonction. C'est son rôle. Il est envoyé par Dieu pour nous montrer nos contradictions. Le prophète est envoyé par Dieu pour venir mettre le doigt sur quelque chose dans nos vies, des contradictions dans nos vies que nous ne voyons pas. Il est là pour nous aider à ouvrir les yeux. Et c'est terriblement dérangeant, ça. Naturellement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut entendre des gens autour de nous? Qu'est-ce qu'on veut que les gens autour de nous nous disent concernant notre travail, nos relations, mon rôle comme époux auprès d'Esther, auprès des enfants? Ce qu'on aime entendre, c'est... Écoute, lâche pas, tout est parfait. J'ai rien à redire. Non? Mieux que ça encore, on aime mieux se faire dire encore, écoute, t'es une inspiration pour moi. C'est pas ça qu'on aime? Fais du bien. Le prophète, lui, est envoyé pour venir faire le contraire. Le prophète est envoyé pour venir mettre le doigt sur quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'arrive pas à voir. Pas nécessairement que tout va mal. Pas nécessairement que tout est tout croche, mais nous sommes aveuglés par ce désir de pas trop être dérangé, de ne pas trop sortir de notre zone de confort. Le prophète est là pour t'aider à avancer. En d'autres mots, c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est ça le prophète. Mais naturellement, ce qu'on aime entendre, Vous savez, lorsque tu sors, si vous êtes marié, vous allez savoir de quoi je parle. Quand tu sors avec ton épouse au restaurant, ça fait quelques années que tu es marié, puis là, tu t'en vas prendre le bon temps au restaurant. Si tu savais à l'avance qu'à la question suivante, « Puis chérie, comment tu trouves que ça va de ce temps-ci? » Si tu savais que la réponse allait être « Ah, écoute, moi, je suis une femme comblée. J'ai vraiment rien à redire. Je m'épanouis avec toi. Tu m'aides à... Tu fais sortir le meilleur de moi. » Si on savait que la réponse était ça, on la poserait, la question. On n'est juste pas assez fou pour poser cette question-là, non? Tu ne veux pas la poser, la question. Et pourtant, pour avancer, peut-être qu'il faudrait que je la pose, la question. Mais c'est pas le genre d'affaire qu'on aime entendre. On veut entendre « t'es un bon gars, t'es un bon mari, t'es une bonne épouse, t'es un bon chrétien, un bon collègue de travail, t'es une bonne personne, puis j'ai rien à dire, lâche pas, t'es un modèle pour moi. » Et là, le prophète arrive, et puis paf, il fait péter ta ballonne. Là, il dit « non, ça c'est beau, mais ici, il y a une contradiction dans ta vie. » Extrêmement dérangeant. Bien, Jésus et Jean-Baptiste étaient très, très, très dérangeants. Pour les gens religieux de leur époque, ils étaient dérangeants. Ils sont arrivés aux hommes religieux de leur temps et ils ont commencé, tout simplement, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont commencé à jeter de la lumière. Prendre la parole de Dieu et puis venir éclairer le témoignage, la vie de ces gens religieux de leur époque, mettre des choses en lumière et montrer des contradictions entre ce qu'ils disaient faire et ce qu'ils faisaient en réalité. Par exemple, Jésus a dit aux chefs religieux, spécialement aux docteurs de la loi, aux spécialistes de la parole de Dieu, il leur a dit, bien, vous obéissez à certains aspects de la parole de Dieu, vous le faites avec une méticulosité incroyable, vous dites vouloir obéir à la parole de Dieu, vous faites vos petites prières, vous faites vos petits rituels, et vous faites tout cela pour que les hommes vous voient. Donc, c'est bon rien. Ou pire encore, Jésus leur a dit, vous dites que vous êtes les hommes de la parole, que vous voulez enseigner la vraie religion, celle qui nous conduit à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et vous vous servez de tout ça pour manipuler les foules, pour contrôler les gens, pour abuser d'eux. C'est pas ça la vraie religion. Vous comprenez qu'il voulait lui tirer des roches parce que le prophète est dérangeant. Jean-Baptiste, lui, dans le passage de ce matin, est allé vers Hérode, et voici ce qu'il a dit à Hérode. « Tu es roi des Juifs. » Hérode avait été placé, on va s'entendre, c'est une espèce de gouvernement un peu fantoche, dans le sens que c'est l'Empire romain qui a dit « Oh, OK, ça va être toi le roi de ce territoire-là. » Mais donc, il était appelé à diriger, à régner comme roi sur une partie du territoire de la Palestine. C'est un Juif. Et il dit à Hérode, « Toi, tu es roi de ce territoire juif, tu dis connaître la parole de Dieu, puis tu es allé prendre la femme de ton frère. Est-ce que tu connais pas la parole de Dieu? Est-ce que tu ne sais pas qu'on a des principes d'amour, de respect, de loyauté? On a des principes si tu es le roi des Juifs? » Et dans le cas de Jean-Baptiste, c'était d'autant plus dérangeant qu'il y avait certainement des gens parmi le peuple qui avaient été eux-mêmes scandalisés par ce que Hérode avait fait. Alors, non seulement c'est dérangeant pour la foi personnelle d'Hérode, mais ça a des implications politiques, vous comprenez? C'est assez facile de commencer à soulever le peuple à partir de ce moment-là. Donc, il devient très, très dérangeant. Hérode était un roi. C'est une chose quand tu vas prendre un café avec ton chum puis tu lui dis... Quelque chose, faudrait que je te dise. C'est une autre chose. Quand tu prends un porte-voix, tu t'en vas sur la place publique et tu reprends publiquement le roi. C'est pas le genre de chose à faire si tu veux garder ta tête sur tes épaules. Pas le genre de chose à faire. Mais Jean-Baptiste est un prophète. C'est sa fonction. C'est son rôle. Le prophète est là pour soulever les contradictions, pour faire ressortir les contradictions dans nos vies. Alors, c'est absolument inévitable que le prophète soit dérangeant. Maintenant, si on va juste un petit peu plus haut que le passage de ce matin, deux versets plus tôt, au chapitre 13, verset 57, si vous étiez ici il y a deux semaines, ça va vous revenir à l'esprit. Jésus, deux versets plus tôt, a dit « Nul n'est prophète dans son pays ». Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans le récit? Jésus vient de faire cette déclaration. Nul n'est prophète dans son pays. Et tout de suite après, au chapitre 14, Matthieu va en faire la démonstration. En nous montrant ce qui arrive à un des plus grands prophètes dans son territoire, dans son pays, en nous faisant le récit de sa mise à mort. Nul n'est prophète dans son pays. Selon les évangiles, Jean-Baptiste était le prophète annoncé dans l'Ancien Testament qui devait venir ouvrir la voie au Messie. C'était ça son rôle. C'était lui qui devait annoncer à l'avance la venue du Messie, ouvrir la voie, ouvrir le chemin au Messie. Jésus a dit de Jean-Baptiste un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu, Jésus a dit qu'il était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, que c'était lui, Élie. Il avait été annoncé dans l'Ancien Testament qu'un autre prophète viendrait comme Élie, un prophète de l'envergure du prophète Élie, qui viendrait et qui annoncerait la venue du Messie. Bien, Jésus a dit à ses disciples, c'est lui, Élie, que vous attendiez. C'est lui qui vient ouvrir la voie. Ainsi, Jean-Baptiste était le messager de Dieu qui ouvrait la voie à Jésus-Christ, le Sauveur. Nul n'est prophète dans son pays. Bien, c'est tellement vrai que Jean-Baptiste l'a payé de sa vie à lui. Dans l'évangile de Matthieu, une des choses que Matthieu essaie de communiquer, c'est les comparaisons ou les parallèles qu'il y a entre celui qui devait ouvrir la voie et le message lui-même. Entre Jean-Baptiste et Jésus. À plusieurs reprises, c'est un des thèmes dans Matthieu. Il veut nous montrer qu'il y a un parallèle entre ces deux personnages-là. Et donc, ce qu'il est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de préparer le chemin pour la fin de l'Évangile. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est regardez ce qui est arrivé aux messagers, tel ils ont fait aux messagers, tel ils feront au message. Jésus-Christ lui-même. Tel ils ont fait aux héros qui annonçaient la venue du roi, tel ils feront au roi lui-même. La comparaison va tellement loin que c'est fascinant d'observer que la décision de la mise à mort de Jean-Baptiste va être prise par un chef politique qui manque de courage, qui est coincé, qui va autoriser la mise à mort de la même manière que la décision va être prise pour la mise à mort de Jésus par un chef politique qui manque de courage, qui est coincé puis qui va autoriser la mise à mort. C'est un des thèmes dans l'évangile de Matthieu parce que Matthieu veut tout simplement nous aider à réaliser que rejeter Jean-Baptiste, ça va être rejeter Jésus. Comme Jean-Baptiste va être traité de la même manière que Jésus va être traité, rejeter le messager, c'est rejeter le message par la suite. Et ce que Matthieu est en train de faire, il est en train de semer tranquillement des indices pour nous préparer à ce moment dramatique où le roi lui-même va être mis à mort. Et je ne voudrais pas tomber dans le mélodramatique ce matin. Mais un autre des thèmes dans l'évangile de Matthieu, et Matthieu est en train de nous préparer à cela, c'est que de la même manière qu'ils ont traité le messager, de la même manière ils vont traiter le message lui-même, le sauveur, de la même manière ils traiteront les disciples du sauveur. Et c'est un des thèmes dans Matthieu. De la même manière que Jean-Baptiste a été traité, de la même manière Jésus va être traité, et probablement certains des disciples vont devoir passer par les mêmes souffrances, par les mêmes douleurs. Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu, au chapitre 5, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Paul a dit la même chose dans un autre langage lorsqu'il a dit que nous sommes ceux qui avons reçu le message de Jésus-Christ, une odeur, un parfum de Christ devant Dieu, parce que nous avons cru en Christ. Mais pour les hommes, pour certains, nous serons une odeur de mort. Pour d'autres, une odeur de vie. Selon leur réponse au message, certains rejetteront, parfois avec des réactions agressives, surprenantes. D'autres recevront la bonne nouvelle. D'une certaine manière, tous ceux qui croient en Jésus-Christ font office de prophètes, de messagers de la bonne nouvelle. Et nul n'est prophète dans son pays. Alors, on n'a pas à être surpris s'il y a parfois des réactions qui vont être négatives, qui vont être difficiles, qui vont être dures. C'est normal. Le prophète est dérangeant. Le prophète est là pour mettre en lumière des contradictions dans nos vies. Le prophète est là pour provoquer des changements. C'est un empêcheur de tourner en rond. Maintenant, lorsque Matthieu est en train de raconter ça ici dans son récit, il n'est pas en train d'essayer de nous faire peur. La scène qu'il raconte avec Jean-Baptiste, c'est une scène qui est dramatique. La poussée ou l'élan dramatique va continuer jusqu'au climax de son histoire, jusqu'à la mise à mort du roi. L'intensité dramatique dans le récit va continuer à monter. L'opposition entre les chefs religieux et Jésus, entre ceux qui vont croire ses disciples et ceux qui ne croiront pas, va continuer à monter. Ça continue à grimper. Ça devient de plus en plus dramatique jusqu'à ce qu'il crucifie le roi lui-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tout cet élan dramatique jusqu'au rejet ultime du roi. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'à travers ce drame-là, Jésus-Christ est crucifié, il ressuscite d'entre les morts. Et les portes du ciel nous sont ouvertes. Le salut est rendu possible. De la même manière, lorsque nous témoignons, lorsqu'on partage avec des amis la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on doit se rappeler que l'histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas parce qu'il y a des réactions difficiles, ce n'est pas parce que les gens sont mal à l'aise et qu'ils même nous demandent de ne plus jamais parler de ça avec eux, que l'histoire est terminée. Ce n'est pas parce qu'ils ont des réactions violentes ou surprenantes ou nous demandent d'arrêter que l'histoire est terminée. Une des plus belles images de ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a réagi avec une violence incroyable devant le message. Il était devenu un persécuteur de l'Église. L'apôtre Paul est la preuve que ce que Matthieu est en train de nous préparer ici est vrai. Ils ont mis à mort Jean-Baptiste, ils ont mis à mort le Sauveur, et l'apôtre Paul mettait en prison, maltraitait, approuvait la mise à mort des chrétiens. Est-ce que l'histoire s'est terminée là? Le Seigneur est allé le chercher, lui. Puis il a dit, il faut encore que je lui montre tout ce qu'il a à souffrir pour mon nom. Parce qu'il va devenir à son tour un messager, un prophète. Qui va aller déranger du monde. Mais toutes ces montées-là dramatiques avec ces réactions-là sont nécessaires pour arriver à notre salut ultimement par la mort de Christ et sa résurrection, mais au salut de plein d'individus aussi. Il faut accepter que dans la course, dans le parcours, en ouvrant la bouche, il va y avoir des moments inconfortables. Même si on le fait avec toute la grâce et tout l'amour et toute la douceur nécessaire, il va y avoir des moments inconfortables. Comment sauver quelqu'un sans lui dire qu'il y a un danger? S'il n'y a jamais de danger annoncé, vous êtes en train de le bercer dans une illusion et vous le conduisez légèrement à sa plus grande perte. L'histoire n'est pas terminée, c'est pas dramatique pour Matthieu parce que c'est le rôle du prophète, c'est son rôle de le faire et il va y avoir des conversions. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de l'Évangile au Québec dans les 50, les 60 dernières années, je vous encourage à mettre la main sur des DVD qui ont été tournés, qui racontent un peu juste l'histoire de notre association. Et puis, on aurait pu aller voir d'autres mouvements d'église évangélique un peu partout au Québec. Mais il faut que vous écoutiez ça. Vous savez que les premiers pionniers qui sont arrivés ici sont arrivés sous Duplessis. C'était pas évident. Ces hommes-là, parce qu'ils allaient de porte en porte et offraient de donner une Bible aux gens, se faisaient jeter en prison pour ça. Littéralement, là. Des centaines de jours cumulés de prison pour ces pasteurs qui faisaient juste offrir une Bible, juste annoncer la bonne nouvelle. Ils s'en allaient pas essayer de faire effondrer un système politique. Ils allaient juste mettre en lumière des contradictions. Vous dites être religieux, mais vous n'avez pas compris le message de l'Évangile. C'est tout ce qu'ils venaient dire aux Québécois. Prison. Est-ce que ça a valu la peine? Regardez où est-ce que vous êtes. Regardez l'Église qui est ici. Ces gens qui ont quitté leur pays, qui sont venus ici comme M. Beau, qui ont été méprisés, rejetés, maltraités au départ lorsqu'ils venaient témoigner. Est-ce que ça a valu la peine? On est en train de bâtir une Église pour Christ, pour sa gloire. Des vies ont été bouleversées à travers ça. Ça valait la peine. Ça valait la peine. C'est le rôle du prophète. Le prophète est là pour déranger littéralement, pour mettre en lumière des contradictions, pour faire sortir des choses. Et Jean-Baptiste a été dérangeant. Maintenant, il y a une raison pour ça. Qu'est-ce qui fait que le prophète est tellement dérangeant? Le prophète est dérangeant parce qu'il nous empêche de vivre une religion à la carte. C'est pour ça qu'il est dérangeant. Le prophète est dérangeant parce qu'il nous empêche de vivre une religion sur mesure. Naturellement, ce que nous cherchons, c'est du sur-mesure. Nous voulons prendre ce qui nous intéresse puis laisser ce qu'on aime moins. Comme un enfant qui veut pas manger son brocoli dans son assiette, qui veut pas manger ses épinards, mais qui veut bien le dessert et les patates. Et remarquez que c'est naturel chez l'être humain. On fait ça dans tous les domaines. Hein? Pas juste dans le domaine de la spiritualité. On fait ça dans nos rapports amoureux. On fait ça dans nos relations avec nos enfants. Jouer avec mes enfants n'importe quand. Leur faire la morale 26 fois, puis m'asseoir avec eux pour donner un cadre, puis une discipline dans la maison. On fait ça partout. On le fait au travail, dans nos amitiés, dans nos amours. On veut y aller à la pièce, prendre ce qui nous plaît, laisser de côté le reste. Et c'est la même chose dans le domaine de la spiritualité, de la foi, de la religion. Nous voulons du sur-mesure, choisir ce qui nous plaît, laisser le reste. C'est pas qu'on veut pas croire. Et ça, c'est important. Remarquez bien ceci. Ce n'est pas que nous ne voulons pas croire. Nous voulons croire, mais seulement quand ça fait notre affaire. C'est la tendance naturelle de l'homme. Choisir ce qui nous plaît seulement. C'est pas qu'on veut pas écouter Dieu. Et on va faire la démonstration avec Hérode. Ce n'est pas que nous ne voulons pas écouter Dieu, mais nous voulons l'écouter quand ça nous tente et quand il n'est pas trop dérangeant. Revenez avec moi dans le passage Matthieu 13, verset 58, et pensez à ça un instant. Verset 58, Matthieu nous dit, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Il dit que ces gens-là étaient des incrédules. Qu'est-ce que Matthieu est en train de dire? Est-ce qu'il est en train de dire que c'était des gens qui ne croyaient pas en Dieu? Est-ce que Matthieu est en train de dire que les gens de Nazareth, c'était une gang d'athées qui croient que Dieu n'existe pas, puis ils étaient incrédules, ils ont rejeté Jésus? Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Tous ces gens-là croyaient en Dieu. Si vous étiez allé faire un reportage à l'époque après le passage de Jésus, puis vous étiez un reporter, puis vous aviez approché des gens dans la rue, vous aviez dit, écoutez, je sais que Jésus est passé ici, puis vous n'avez pas cru en lui, donc est-ce qu'on doit déduire que Nazareth a évolué, puis vous ne croyez plus dans l'existence de Dieu, et c'est pour ça que vous avez refusé? Pas du tout. Tous ces gens-là auraient dit, écoute, moi je crois en Dieu, je vais à la synagogue tout le temps, j'écoute les prescriptions, j'écoute la parole de Dieu, je crois en Dieu! Sur mesure, à la carte, quand le prophète vient, c'est pas sûr que je vais écouter par contre. Parce que ce que je veux, c'est du sur mesure. Alors ils ont rejeté Jésus. Et pour faire une comparaison avec notre époque, la très, 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 très grande majorité des gens au Québec et dans le monde croient en Dieu. Vous savez que la personne qui se dit athée est éminemment minoritaire sur la planète Terre. Il y a très peu de gens qui vraiment se disent athées. La vaste majorité des gens disent croire en Dieu, ils croient que Dieu existe. Lorsque le 20e siècle est arrivé, le 19e siècle, le 20e siècle est arrivé, les philosophes ont commencé à dire « c'est la fin de la religion, les gens ne croiront plus en Dieu, la science a tué Dieu ». C'est tout sauf vrai cette affaire-là. C'est complètement faux. La grande majorité des gens sur la Terre croient dans l'existence de Dieu. Il y a plein d'études qu'on a vues sortir dans les dernières années, même au Québec, des sondages, des études publiques qui nous montrent que les Québécois, en grande majorité, croient dans l'existence de Dieu. Pas plus loin que deux semaines, dans la presse, il y avait un article qui disait qu'il y avait un regain. Je sais pas si vous avez entendu ça, un petit retour au mariage. Vous avez entendu ça? Un petit peu plus de couples, de jeunes couples qui veulent célébrer leur union, leur relation, leur amour par l'union du mariage dans un contexte religieux. C'est ce que l'article disait. Et donc, dans l'esprit de ces gens-là, ils veulent mettre la spiritualité dans leur union. Ils veulent qu'il y ait un élément spirituel, qu'il y ait quelque chose de spirituel dans leur relation. Ces jeunes-là veulent croire en Dieu ou la foi et ils veulent voir ça dans leur union. Ils ont une certaine croyance, ça c'est très clair. Cependant, le même article dans la presse disait que tous ces jeunes-là veulent construire ce qu'ils croient par eux-mêmes. Alors, ils veulent avoir la spiritualité, ils ressentent un besoin de croire, il y a une foi qui est là en eux et qui veut s'exprimer même dans leur union ensemble, mais sur mesure, à la carte. Ils sont croyants, à la carte. T'en prends, t'en laisses dans tout ça, c'est toi qui es l'autorité finale pour décider ce qui est à prendre et à laisser. Hérode, dans le passage ici, est un bel exemple. Vous allez me dire un peu rude, là, un peu rough, un peu extrême, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais Hérode est un bel exemple d'une spiritualité à la carte. Lorsqu'on lit ça, on voit la folie, le côté tellement sanguinaire, on est impressionné par ça. Puis il y a des petits morceaux qu'on oublie en lisant le passage. On les oublie lorsqu'on arrive dans cette scène un peu folle où il y a une luxure qui est là, puis là juste parce que le gars a donné sa parole, puis que finalement, il n'y a pas de colonne, il y a un prophète qui va mourir, puis on reste avec ça. Mais Hérode est un croyant. Hein? Regardez ce que Hérode dit au verset 1 et 2. « En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste! C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité! » Quand même, il croyait dans la résurrection. Là. Tu ne dis pas ça à tes serviteurs si tu ne crois pas. Là. Cet homme-là croyait dans les résurrections. C'est beaucoup de foi déjà. C'était un homme qui avait une certaine foi, qui avait une certaine superstition au moins, qui croyait dans des choses. Hérode n'était pas un athée. Très, très loin de là. Il croyait en Dieu d'une manière ou d'une autre. Dans l'évangile de Marc, deuxième évangile, l'évangéliste nous dit, en parlant d'Hérode, voici ce qu'il dit. « Hérode, craignant Jean, en parlant de Jean-Baptiste, le connaissant pour un homme juste et saint, le protégeait. » Ainsi, Hérode avait une certaine foi. Hérode croyait dans l'existence de Dieu. On n'aurait pas pu dire de lui qu'il était un incroyant ou qu'il était un athée. Maintenant, croire en Dieu, c'est une chose. Vouloir entendre Dieu, c'est une autre chose. Croire dans l'existence de Dieu, c'est une chose. Vouloir entendre ce que Dieu a à nous dire quand Dieu veut nous brasser, ça, c'est une autre affaire. Et c'est là que ça commence à devenir dérangeant. Hérode était prêt à croire, mais seulement dans une religion sur mesure. Prendre ce qu'il veut, laisser le reste. Alors, quand Dieu a envoyé son messager Jean-Baptiste vers Hérode, puis que Jean-Baptiste est arrivé pour le confronter, pour l'interpeller sur des contradictions dans sa vie, dans sa profession de foi, il se disait le roi des Juifs, mais méprisait la loi des Juifs, la parole de Dieu. Là, Hérode a commencé à trouver ça moins drôle. Jean-Baptiste est devenu dérangeant. Croire en Dieu, oui, mais dans ce qui me tente. Écouter Dieu, oui, mais quand ça me tente. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez me dire, c'est un roi, c'était assez simple. Il avait beaucoup, beaucoup de pouvoir, c'est vrai. Il jette Jean-Baptiste en prison. Il prend le messager et il le jette dans prison et il ferme la porte. Il fait taire Dieu. Crois en Dieu. Il entend parler de la résurrection de Jésus-Christ, puis il dit, oh, c'est la résurrection de Jean-Baptiste. Il est croyant. Il est intéressé par ce que Jean-Baptiste a à dire. Mais quand Jean-Baptiste devient dérangeant, il fait taire Dieu. Il enferme le messager, il fait taire Dieu. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous citer dans l'évangile de Marc, comment Marc nous parle d'Hérode. Je vais juste compléter le passage. Voici ce qu'il dit. Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Alors voici comment ça se passait. Hérode est un roi, le matin il se levait, ses serviteurs arrivaient, ouvraient les stores, toutes les quêtes, servaient son petit déjeuner, sa robe de chambre, tout ça. Pendant qu'il était en train de lire son journal puis de manger ses œufs brouillés avec son bacon, s'il y avait quelque chose en lui, un petit élan religieux là, qui se réveillait en lui et qui se disait « Je me demande si Dieu aurait des bonnes nouvelles pour moi aujourd'hui. Je me demande si les étoiles sont bien alignées pour moi aujourd'hui. » Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait sa clé, débarrait la porte puis il disait « J'aimerais ça t'entendre, Jean-Baptiste. » Il écoutait juste pour voir si Jean-Baptiste n'aurait pas quelque chose d'intéressant à lui dire. Là, à un moment donné, quand Jean-Baptiste devenait trop confrontant, quand Jean-Baptiste venait le chercher, ouf, puis là, ça commençait à devenir dérangeant, cette affaire-là. Puis, tu sais, tu veux pas traîner ces pensées-là toute la journée. Ferme la porte, barre la porte, on n'a plus besoin de l'écouter. C'est pratique. C'est super commode. C'est un peu comme écouter un preacher à télé. Tu l'écoutes, quand ça devient dérangeant, tu pèses sur la manette, c'est fini. C'est un petit peu la même chose, voyez-vous. C'est une foi à la carte. Il prenait plaisir à l'écouter. Il était souvent perplexe. Il était curieux de ces choses-là. Il avait une certaine foi, mais lorsque c'est assez, c'est assez. C'est du sur-mesure solide. T'écoutes quand tu veux, tu fermes la porte quand tu veux plus. Tu décides qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Alors, en mettant Jean-Baptiste en prison, Hérode avait le meilleur des deux mondes. Lorsque Jean-Baptiste était libre, il était dérangeant. Hérode détestait pas ça, l'écouter, mais il était dérangeant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Dieu dans une petite boîte en enfermant le messager de Dieu. Il pensait mettre Dieu dans une petite boîte et le faire taire pour pouvoir l'écouter juste quand ça lui chantait. Et quand ça ne lui chantait plus, il pouvait fermer la porte et ne plus l'écouter. Le hic dans cette histoire-là, c'est qu'on ne met pas Dieu dans une boîte. C'est Dieu. Si tu pouvais le mettre dans une boîte, laisse-le dans sa boîte. Ce n'est pas Dieu. De toute façon, ça ne t'intéresse pas. Quand tu pourras mettre Dieu dans une boîte, laisse-le là, tu n'en as pas besoin. Dieu ne se met pas dans une boîte. Ce n'est pas vrai, ça. Alors, Dieu n'en restera pas là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce Dieu qui a créé Hérode. Vous savez, dans ce récit-là, Hérode est tellement agressif, puis le geste est tellement violent qu'on oublie, selon les Écritures, qu'un jour, Dieu a dit Hérode. Ça serait le fun de créer Hérode. De voir cette créature, mon enfant. Je sais qu'il va être rebelle, mais j'y enverrai mon prophète qui va venir l'aider à voir les contradictions dans sa vie. Dieu n'en restera pas là. Dieu va obliger Hérode à faire un choix. Le rôle du prophète, c'est de nous faire sortir de nos statu quo, de nos illusions que tout est correct, tout est beau, puis on en fait assez, puis c'est cool, puis j'ai pas besoin de voir certaines affaires que souvent je les entrevois déjà, ils sont dans mon angle mort, mais ça me tente pas de les voir. Le rôle du prophète, c'est de venir justement te tourner la tête puis te mettre les yeux sur l'angle mort. Alors Dieu n'en restera pas là, il va obliger Hérode à faire un choix parce que Dieu veut nous conduire dans la vraie religion, la vraie affaire. C'est pour ça que Jésus est venu. Les docteurs de la loi se berçaient dans une espèce d'illusion. Ils avaient trouvé quelque chose d'un peu accommodant et puis ils étaient satisfaits de ça. Et Jésus est venu pour confronter. C'est une des raisons pour lesquelles il est venu. Alors Dieu n'en restera pas là. Dieu poursuit cette relation avec nous. Une relation vraie. Il le fait dans nos vies. Chacun d'entre nous, chrétien, non chrétien. Et donc, il ne permettra pas qu'on reste dans à se berner, à se tromper nous-mêmes. Il va nous pousser à prendre position pour ou contre Dieu, pour ou contre le messager de Dieu, pour ou contre Jésus-Christ. Il va nous obliger à le faire. Dire que je crois en Dieu, sans que ça ait aucune implication dans ma vie, sans que ça me dérange jamais, c'est pas suffisant. Dieu sera pas satisfait de ça. Dieu va envoyer des prophètes. Qui vont venir me brasser, qui vont venir provoquer des changements, qui vont m'amener à réfléchir, qui vont nous amener à se remettre en question. Si tu dis à un de tes chums que tu crois en lui, que vous avez une belle relation, puis que tu l'aimes, et que chaque fois qu'il vient te dire « Écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas », tu ne l'écoutes pas. Ou si tu l'appelles juste quand ça te tente, quand ça va mal, il n'est pas fou, il va comprendre. Il va comprendre. Il n'y en a pas de relation. Et voyez-vous, ce que Dieu veut, c'est une relation véritable avec nous. Dieu désire une relation profonde. Pensez-y un instant. Si Dieu a désiré cette relation-là au point de venir mourir sur la croix, si Dieu a désiré établir une relation avec nous au point de venir mourir sur la croix, pensez-vous qu'il va se satisfaire d'une demi-relation? Sans venir nous provoquer, sans venir nous brasser, sans venir nous sortir de nos zones de confort pour pouvoir entrer dans une relation intime et profonde avec lui, il ne demeurera pas silencieux. Il va nous pousser à prendre position. Hérode voulait une religion sur mesure, une religion à la carte. Dieu n'était pas intéressé là-dedans. Dieu va le provoquer. Je vous donne un autre exemple. C'est un peu comme si tu avais une amitié avec une fille ou avec un gars, Mais cette fille-là, elle veut plus qu'être ton amie. Elle voudrait être l'amour de ta vie. C'est ça qu'elle voudrait. Fait qu'elle accepte pour un temps l'espèce de relation que vous avez ensemble, puis vous passez du temps ensemble. Mais vous comprenez, à un moment donné, elle tournait en rond. Il faut que ça finisse, cette affaire-là. Il faut que tu te décides, bonhomme, là. Alors imaginez un instant que dans toute votre indécision, vous sortez un soir avec des amis, tout ça, puis là, elle est là à côté de vous, puis là, tu dois la présenter, puis tu sais, tu n'as jamais comme pris position vraiment, qu'est-ce qui arrive avec votre relation, puis là, tu la présentes, puis tu dis « Salut Marc, je vais te présenter Esther. Esther, c'est une amie. » T'es mieux de ne pas la rappeler, mon gars, là. Pense que t'es fini, là. Non, non, je suis vraiment désolé, Esther. Il faudrait qu'on se rencontre puis qu'on s'en parle, là. Non, je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini. Elle a compris. Il va falloir que tu prennes position. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne tolérera pas une relation à moitié, une religion à moitié. Il va vouloir provoquer des changements. Dieu veut nous conduire vers quelque chose de vrai et d'entier. Alors, il envoie son prophète pour nous faire avancer, pour nous provoquer à grandir dans notre foi. Ce que Dieu fait, c'est qu'il va provoquer Hérod. Il ne permettra pas un statu quo. Et c'est assez dramatique dans ce cas-là, quitte à ce que ça coûte la vie de son messager. Et c'est tout ce qu'on a ici dans le récit. Sur un plan personnel, d'accord, lorsqu'on sort du grand récit de Jésus, du prophète, du messager, tout le kit, puis on rentre juste dans la vie personnelle d'Hérode. Qu'est-ce qui s'est passé comme dans sa journée, cette journée-là? Dans le cœur d'Hérode, tu l'as obligé à prendre position. Tu pensais que tu l'avais facile en mettant le prophète dans une petite boîte. Religion à la carte, je suis intéressé, je ferme la porte, J'écoute quand ça me tente, je prends ce que je veux, je laisse le reste. Non, mon homme, tu vas prendre position. Quitte à ce que mon messager doive souffrir pour t'obliger à prendre position. C'est quand même assez tough, hein? Mais il l'a fait en venant mourir sur la croix pour nous. Alors pourquoi, une fois que moi je suis sauvé puis que j'ai cru en Jésus-Christ, ce ne serait pas à ça que je servirais. De manière assez dramatique, parfois, être l'outil de Dieu pour provoquer des prises de position, pour provoquer les gens qui pensent qu'ils l'ont facile avec une petite religion à la carte où il n'y a pas de relation intime avec Dieu. Pourquoi est-ce que le messager de Dieu ne serait pas comme le Christ lui-même et ne servirait pas à ces moments-là qui peuvent être vraiment dramatiques? Hérode a été amené à prendre position, et dans son cas, parce qu'il était incrédule comme les gens de Nazareth, il a été conduit à mettre à mort le messager de Dieu. Et ça a été sa prise de position finale. On a fini de tourner en rond, Hérode. Tu as pris une position. Maintenant, je suis dans une église. La majorité d'entre vous, vous avez pris une décision pour Christ déjà. C'est extrêmement facile pour nous, comme chrétiens, de lire un récit comme celui-là et de se dire, « OK, Yannick, je comprends l'idée. Moi, j'ai cru en Jésus, donc je suis un prophète. Il va y en avoir qui ne seront pas faciles. Je suis envoyé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle à ceux de l'extérieur. Et donc, c'est ça qu'il faut que je retienne de ce message-là. » Maintenant, ça serait manquer un élément vraiment important du message de Jésus qui est essentiel, et c'est de reconnaître que si Dieu se sert de moi comme prophète, Dieu va envoyer dans ma vie aussi des prophètes. Si Dieu se sert de moi comme d'un messager pour apporter un message de libération comme celui de l'Évangile, pour aller vers des gens et leur dire, regarde, peut-être que ta relation n'est pas vraie, peut-être que tu as besoin d'une autre base pour ta relation. Essaie pas de le gagner ton ciel, ça ne marchera pas. Il faut que tu passes par la croix, par Jésus-Christ. Si Dieu se sert de ça pour moi, mais il va falloir, comme prophète de Dieu, que je sois aussi attentif aux prophètes que Dieu envoie dans ma vie. C'est Jésus qui a dit, pourquoi est-ce que tu essaies d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère et que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Voyez-vous, l'Évangile ne nous amène pas à regarder les gens à l'extérieur puis dire, ah oui, Hérode, j'en connais une couple. Je pourrais t'en présenter une coupe, moi, d'Hérode. Quand tu leur demandes de prendre position, c'est bête comme le pied, ils rejettent ça la foi, ils ne veulent rien comprendre. J'en connais d'Hérode, moi. C'est pas ça que l'Évangile fait. L'Évangile nous amène à dire, jusqu'à la croix, Seigneur, j'étais exactement comme Hérode. et trop souvent encore, Seigneur, aussi. J'entends ta voix qui me parle par un frère, par une sœur qui est venue me parler, par mon épouse, par mon époux qui a mis quelque chose en lumière, par une circonstance qui est arrivée dans la journée où j'ai mal réagi, puis j'ai vu mon cœur, j'ai bien saisi que c'était Dieu qui est en train de me parler par son esprit. Et trop souvent encore, Seigneur, je prends ce message-là et je l'enferme dans une boîte. On s'en reparlera, Seigneur, peut-être au jour de l'an quand je prendrai mes résolutions. Est-ce que Dieu vous a parlé dernièrement? Est-ce que Dieu vous parle depuis un bout de temps à travers sa parole, à travers des circonstances, à travers des gens qui ne croient pas en Dieu et qui ont relevé dans votre vie des contradictions? Des fois, ça sort bêtement. Je ne pensais pas que vous faisiez ça, vous autres, les chrétiens. Tu sais que c'est... Le gars peut vraiment être un prophète à ce moment-là. Soit dit en passant, dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes non-juifs que Dieu a utilisés. Il n'y a aucun problème. Dieu peut servir absolument n'importe qui pour venir te brasser. Est-ce que Dieu t'a dérangé dernièrement? Est-ce que Dieu est venu mettre en lumière des contradictions dans ta vie? Faire éclater ta bulle, ta balloune, là où tu aurais voulu entendre « Tout va bien, mon homme, tu es un super chrétien ». Et par une circonstance, par un frère, par une situation au travail, par une réaction que tu as eue, par un passage dans les Écritures, par une prédication, n'importe comment, par tes enfants, par ton épouse, par ton mari, par quelqu'un à qui tu essaies de témoigner de l'Évangile, Dieu te dit, il y a une grosse contradiction ici. Ce que Dieu veut, c'est une relation vraie. La vraie religion, c'est une relation intime. Alors, il va nous envoyer constamment ses prophètes. Parce que ses prophètes sont là pour nous faire progresser, nous faire avancer, nous pousser en avant, nous empêcher de tourner en rond. On arrive dans la période des fêtes, on va voir nos familles, on va voir des amis, on va voir toutes sortes de circonstances, et puis on est là, puis on dit, « Seigneur, j'aimerais tellement ça pouvoir leur annoncer Jésus-Christ. J'aimerais tellement ça, Seigneur, être un prophète dans leur vie. » Pour que le prophète soit efficace, il faut qu'il écoute la voix de Dieu et les prophètes que Dieu lui envoie. On va prier. Seigneur, je sais, parce que ta parole me le dit, que tu es un bon père, que tu châties tes enfants, que tu reprends et corriges ceux que tu aimes. Je sais, Seigneur, parce que j'ai connu ton amour à la croix, que tu m'aimes assez pour me poursuivre et me reprendre et me redresser, me corriger, m'empêcher de m'installer confortablement dans une petite religion, mais me pousser vers cette relation vraie et intime. Seigneur mon Dieu, je te prie de rendre nos cœurs sensibles, d'ouvrir, Seigneur, notre esprit, nos yeux, et que ton esprit puisse librement nous parler et venir nous reprendre, nous corriger. Seigneur, humblement, on s'approche devant toi parce que nous savons que tu nous as aimés avant tout. Malgré tout, tu t'es donné sur la croix pour nous, pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas à la beauté de nos vies que tu vas décider de nous laisser entrer au ciel ou non, mais à la beauté de ta vie, de ta mort et de ta résurrection. Nous savons, Seigneur, que toute cette relation découle de la grâce. Alors nous venons devant toi ce matin pour te dire, parle-nous, Seigneur, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Parle, car ton serviteur écoute, Seigneur. Et envoie-nous maintenant, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle, coûte que coûte, pour aimer, Seigneur, ces gens autour de nous qui ont besoin d'avoir un prophète qui intervient dans leur vie. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.